Chapitre 3. À l'époque de l'apôtre, deux grands maux de la profession chrétienne débutaient déjà. Premièrement, il y avait ceux qu'il qualifie de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, se transformant en apôtres de Christ. Chapitre 11, verset 13. Deuxièmement, le résultat en était que la parole de Dieu était frelatée. Chapitre 2, verset 17. Des ministres corrompus conduisent à la corruption du ministère. Ce qui commençait au temps de l'apôtre s'est pleinement développé de nos jours. Pour faire face à ces deux maux, l'apôtre place devant nous, au chapitre 3, le vrai ministère et ses résultats, et au chapitre 4 et 5, le vrai ministre, serviteur, et ses caractéristiques. Ayant ainsi la norme de Dieu, nous sommes en mesure de juger l'éloignement solennel de la profession chrétienne, tandis qu'en même temps, nous pouvons nous examiner nous-mêmes pour voir à quel point nous sommes loin de répondre aux pensées de Dieu. Au chapitre 3, l'apôtre commence donc avec le grand objectif de montrer que les chrétiens, comme ensemble, sont la lettre de Christ, et comment ils le deviennent par le ministère de l'Évangile, et comment ce qui est écrit sur cette lettre est maintenu lisible, de manière à ce que tous les hommes puissent lire Christ dans les siens. Versets 1 à 6. Citation de l'Écriture. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous, ou de lettres de recommandation de votre part ? Vous êtes, vous, notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Car vous êtes manifestée comme étant la lettre de Christ dressée par notre ministère, écrite non avec de l'encre, mais par l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Fin de citation. Avant de parler sur ce grand sujet, l'apôtre prend soin de montrer qu'il ne le fait pas dans un but intéressé. Les faux docteurs avaient contesté son apostolat, de faux enseignements avaient obscurci le ministère, cela le contraignait à défendre le vrai ministère et les vrais ministres, ou serviteurs. Mais s'il le faisait, ce n'était pas pour se recommander, ni pour chercher l'approbation des Corinthiens, ni par besoin de se faire recommander par eux. Pour dissiper une telle pensée, il se tourne avec beaucoup de délicatesse vers les Corinthiens et leur dit pour ainsi dire « Si nous voulions nous recommander nous-mêmes, nous ne devrions pas parler de notre ministère ni de nous-mêmes, mais de vous. C'est vous, notre lettre, dit-il en substance. » Ils avaient une place si réelle dans ses affections que si quelqu'un contestait son apostolat, il était toujours prêt à désigner tous ceux de l'assemblée à Corinthe comme étant ceux qui le recommandaient, lui et son ministère. Comment se faisait-il que l'assemblée à Corinthe servait à recommander Paul? N'était-ce pas en ce qu'ils étaient l'expression vivante du caractère de Christ que Paul avait prêché? Ils étaient dans leur vie pratique une lettre en faveur de l'apôtre parce qu'ils étaient une lettre qui recommandait Christ à tous les hommes. Paul avait prêché Christ aux Corinthiens. L'Esprit de Dieu avait utilisé son ministère pour rendre Christ précieux à ses croyants de Corinthe. Il avait écrit Christ sur leur cœur. Christ écrit sur leur cœur avait été exprimé de manière vivante dans leur vie. Christ étant exprimé dans leur vie, ils étaient devenus des témoins de Christ. Une lettre, pour ainsi dire, connue et lue de tous les hommes. Recommandant Christ, ils étaient devenus une lettre recommandant Paul, le vase choisi par lequel ils avaient entendu parler de Christ. Ici, donc, nous avons une belle description de la vraie assemblée chrétienne, composée de croyants, sur le cœur desquels Christ a été écrit, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair du cœur. De même que les hommes d'autrefois pouvaient lire les 10 commandements sur des tables de pierre, on peut maintenant lire Christ sur les croyants. La loi était écrite sur des tables de pierre muettes, qui constituaient un témoignage à ce que les hommes devraient être, mais elles ne touchaient pas le cœur. Par le ministère de l'Évangile, l'Esprit du Dieu vivant, écrit Christ sur le cœur d'hommes vivants qui sont un témoignage à tout ce que Christ est. Les chrétiens disent parfois « Nous devrions être des lettres de Christ ». Or l'apôtre ne dit pas « Vous devriez être », mais « Vous êtes la lettre de Christ ». Puis, voyant que l'assemblée à Corinthe avait été ramenée à un bon état, il peut ajouter « Vous êtes manifestés comme étant la lettre de Christ ». L'apôtre distingue donc entre « être la lettre de Christ » et « être manifesté comme tel », une lettre connue, lue de tous les hommes. Si nous entretenons la fausse pensée que nous devrions être la lettre de Christ, nous nous mettrons à agir pour nous efforcer de le devenir par nos propres efforts. Cela nous conduira non seulement à être occupés de nous-mêmes de manière légale, mais exclura également le travail de l'Esprit du Dieu vivant. Le fait est que nous devenons la lettre de Christ, non pas par nos propres efforts, mais par l'Esprit de Dieu écrivant Christ dans nos cœurs. Si nous ne sommes pas des lettres de Christ, nous ne sommes pas chrétiens du tout. Un chrétien est quelqu'un à qui Christ est devenu précieux par une œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur. Ce qui constitue un chrétien n'est pas simplement une connaissance de Christ dans la tête, comme un inconverti peut l'avoir, mais c'est Christ écrit sur le cœur. En tant que pécheurs, nous découvrons notre besoin de Christ et nous sommes accablés par nos péchés. Nous trouvons un soulagement en découvrant que Christ, par son œuvre propitiatoire, est mort pour nos péchés et que Dieu a accepté cette œuvre et a fait asseoir Christ dans la gloire. Nos affections sont attirées vers celui grâce à qui nous avons été bénis. Il devient précieux pour nous. Ainsi, Christ est écrit sur notre cœur. Notre responsabilité n'est pas de chercher à bien marcher pour devenir une lettre de Christ, mais du fait que nous sommes la lettre de Christ, nous avons la responsabilité de bien marcher afin qu'elle puisse être lue de tous les hommes. Il est évident que si quelqu'un écrit une lettre, c'est dans le but exprès qu'elle soit lue. Si la lettre est une lettre de recommandation, c'est pour recommander la personne nommée dans la lettre. Ainsi, quand l'Esprit de Dieu écrit Christ sur le cœur des croyants, c'est pour qu'ils puissent devenir ensemble une lettre de recommandation pour recommander Christ au monde alentour. C'est pour que, par leur marche sainte et séparée, par leur amour mutuel l'un pour l'autre, par leur humilité et leur débonnaireté, leur douceur et leur grâce, ils puissent présenter le beau caractère de Christ. Notons que l'apôtre ne dit pas que vous êtes des lettres de Christ, mais vous êtes la lettre de Christ. Il considère tout cet ensemble de saints comme présentant le caractère de Christ. Nous pouvons à juste titre être très exercés quant à notre marche individuelle et pourtant être négligents ou indifférents quant à l'état de l'assemblée. C'était le cas des saints à Corinthe. En effet, ils avaient marché d'une manière désordonnée. Mais sous l'effet de la première épître de l'apôtre, ils s'étaient défaits du mal, de sorte qu'ils pouvaient non seulement dire que comme assemblée ils étaient une lettre de Christ, mais qu'ils étaient une lettre connue et lue de tous les hommes. Hélas, l'écriture peut devenir confuse, mais la lettre ne cesse pas d'être une lettre parce qu'elle est barbouillée ou tachée. Les chrétiens sont souvent comme l'écriture sur certaines vieilles pierres tombales. Il y a de faibles indications d'une inscription. Une lettre majuscule ici ou là indique qu'un nom était autrefois écrit sur la pierre, mais il est si rongé par les intempéries et noirci par la saleté qu'il n'est guère possible de déchiffrer l'écriture. Il se peut, hélas, qu'il en soit de même pour nous. Quand l'esprit commence à écrire Christ sur le cœur, les affections sont chaudes et la vie parle ouvertement de Christ. L'écriture fraîche et claire est connue et lue de tous les hommes. Mais à mesure que le temps passe, le monde est susceptible de se glisser dans le cœur et Christ disparaît de la vie. L'écriture commence à devenir indistincte jusqu'à ce que finalement les hommes voient surtout le monde et la chair et qu'ils voient très peu de Christ dans la vie, si tant est qu'ils en voient quelque chose. Néanmoins, en dépit de tous leurs manquements, les chrétiens sont la lettre de Christ et la grande intention de Dieu reste toujours que les hommes apprennent le caractère de Christ dans la vie des siens. De même que sur les tables de pierre d'autrefois, les hommes pouvaient lire ce que la justice de Dieu requiert des hommes sous la loi, ainsi maintenant, dans la vie du peuple de Dieu, le monde devrait lire ce que l'amour de Dieu apporte à l'homme sous la grâce. La prédication de l'apôtre avait eu comme effet visible, très heureux, les vies transformées des Corinthiens. Le Saint-Esprit avait opéré cela, et ce résultat donnait confiance à l'apôtre quant à son ministère. Il avait la confiance que, par la grâce de Dieu qui lui était donnée par Christ, son ministère était la vérité dont l'Esprit pouvait se servir pour donner la vie. En même temps, l'apôtre prend soin de nier toute compétence intrinsèque qu'il aurait en lui-même. Il dépendait entièrement de Dieu, pour la grâce qui le rendait capable de proclamer la vérité. Sa compétence venait de Dieu, qui avait fait des apôtres des ministres compétents de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est présentée par le prophète Jérémie. Jérémie 31, versets 31 à 34. Les deux grandes bénédictions de la Nouvelle Alliance sont le pardon des péchés et la connaissance de Dieu. Ces bénédictions, comme toutes les autres, échoient à l'homme sur la base du sang de Christ, de sorte que le Seigneur a pu dire en instituant la scène « Cette coupe est la Nouvelle Alliance en mon sang ». La vérité que les saints sont une lettre écrite sur le cœur, en contraste avec l'écriture de la loi sur des tables de pierre, conduit naturellement l'apôtre à se référer à la Nouvelle Alliance, car dans la Nouvelle Alliance, l'écriture est aussi sur le cœur, comme nous lisons, « En mettant mes lois dans leur entendement, je les écrirai aussi sur leur cœur ». Hébreux 8, verset 10. Mais bien qu'il parle de lui-même comme étant ministre de la Nouvelle Alliance, il a soin d'ajouter « non de la lettre, mais de l'esprit ». Il écrit à des gentils, et pour eux, la lettre de la Nouvelle Alliance ne faisait que tuer, autrement dit, les excluait de toute bénédiction. Car pour autant que la lettre soit concernée, la Nouvelle Alliance ne s'applique effectivement qu'à la maison d'Israël et de Juda. L'esprit de la Nouvelle Alliance, ou la bénédiction qui est dans la pensée de Dieu, dont parle cette alliance, est pour tous les hommes, selon la mission du Seigneur confiée à ses disciples, prêcher la repentance et la rémission des péchés en son nom à toutes les nations. Luc 24, verset 47. Puis, passant de l'esprit de la Nouvelle Alliance au Saint-Esprit, l'apôtre dit que l'esprit vivifie. Le Saint-Esprit donne la vie en opérant dans les âmes de manière à les amener à la connaissance du Seigneur et à la rémission de leurs péchés. Hébreux 8, versets 10 à 12. Versets 7 à 11. Citation de l'Écriture. Or, si le ministère de la mort gravé en lettres sur des pierres a été introduit avec gloire, de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin, combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire? Car si le ministère de la condamnation a été gloire, combien plus le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Car aussi, ce qui a été glorifié n'a pas été glorifié sous ce rapport, à cause de la gloire qu'il emporte de beaucoup. Car si ce qui devait prendre fin a été introduit avec gloire, bien plus ce qui demeure subsistera-t-il en gloire. Fin de citation. L'apôtre fait maintenant une longue parenthèse, versets 7 à 16, où il met en contraste l'ancienne et la nouvelle alliance. C'était nécessaire du fait des faux docteurs qui frelataient la parole de Dieu. Mettant les saints en danger d'être détournés du terrain de la grâce et mis dans un mélange de loi et de grâce. L'apôtre montrera à la fin du chapitre que le seul moyen d'être gardé consciemment sur le terrain de la grâce, dans nos âmes, est d'avoir l'œil fixé sur Christ dans la gloire, celui par qui toute la grâce de Dieu se déverse sur nous. Mais il commence par parler du caractère de l'ancienne alliance et de son effet sur ceux qui y sont assujettis. Paul fait plusieurs déclarations précises à l'égard de la loi. Premièrement, la loi est un ministère de condamnation et de mort. Nous devons nous rappeler que la loi est sainte, juste et bonne. Romains 7, verset 12. C'était une règle divinement donnée pour la conduite des hommes sur la terre et non pas un moyen de montrer le chemin du ciel. Or, elle s'appliquait à l'homme pécheur, et il en résultait qu'en interdisant ce qu'il faisait, elle prouvait qu'il commettait des péchés. De plus, elle prouvait l'existence d'une nature mauvaise qui désire faire ce qui est interdit. Si 9 des commandements se réfèrent à la conduite extérieure, le 10e s'applique à la disposition intérieure. tu ne convoiteras point. Un homme peut avoir une conduite extérieurement irréprochable, mais l'application de cette loi à ses pensées intérieures prouve qu'il a convoité et donc qu'il a enfreint la loi. La loi, donc, convainc de péché effectif et prouve l'existence d'une nature mauvaise. Elle devient ainsi un ministère de condamnation. Et la condamnation est la mort. La sainte loi de Dieu, appliquée à un homme qui est déjà pécheur, ne peut que devenir pour lui un ministère de condamnation et de mort. Deuxièmement, la loi était écrite et gravée sur des pierres. La loi n'a rien écrit sur le cœur des hommes. Elle ne dit pas directement aux hommes ce qu'ils sont, mais plutôt ce qu'ils devraient être dans leur cœur et dans leur conduite extérieure. Mais elle ne touchait pas leur cœur. Elle disait aux hommes ce que leur vie devait être, mais elle ne leur donnait pas la vie, ni la force, ni une nouvelle nature. L'écriture sur des pierres est un témoignage parfait de ce que je devrais être, comme enfant d'Adam, à la fois dans mes relations avec Dieu et avec mon prochain. Si elle était quand même un témoignage qui m'était adressé, elle était un témoignage contre moi, car elle prouvait que je ne suis pas ce que je devrais être. L'écriture sur les pierres dit « Fais ceci et tu vivras ». Mais je sais que je n'ai pas gardé la loi. La loi gravée sur des pierres devient donc pour moi un ministère de mort. Troisièmement, la loi prend fin. L'apôtre parle de la loi comme ce qui devait prendre fin. Elle doit céder la place à ce qui demeure. Elle a servi intermédiairement jusqu'à ce que vienne la semence, la postérité, Christ. Elle a prouvé la ruine complète de l'homme et a donc préparé le terrain pour que Dieu manifeste sa grâce. L'homme étant entièrement mis à nu, la loi a fait son travail et cède la place à la grâce et à la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Quatrièmement, la loi a été introduite avec gloire. Pour comprendre la déclaration que l'ancienne alliance a été introduite avec gloire, il faut se rappeler que la gloire est la manifestation de Dieu. La gloire de Dieu proclame qui est Dieu. Gardons aussi à l'esprit que la loi a été donnée en deux occasions et que l'apôtre se réfère à la deuxième. La première fois, Moïse descendit de la montagne avec les tables de pierre à la main, mais sans gloire sur son visage. Exode 32, verset 15. C'était la loi pure qui exigeait de l'homme, sans qu'elle soit accompagnée d'une révélation de la gloire de Dieu en miséricorde à l'égard de l'homme. Quand Moïse s'est approché du camp, il a trouvé le peuple tombé dans l'idolâtrie, ayant donc déjà transgressé le premier commandement. Amener la loi pure au milieu d'un tel peuple les aurait écrasés sous un jugement instantané. Moïse, par conséquent, jeta les tables de ses mains et les brisa. Exode 32, verset 19. Il entra au milieu du peuple sans les deux tables. La loi pure n'est jamais entrée dans le camp. Là-dessus, Moïse remonta sur la montagne une seconde fois et plaida avec Dieu en faveur du peuple. Dieu répondit en grâce à cette plaidoirie et donna une révélation partielle de lui-même en bonté, en grâce et en miséricorde. C'était un aperçu de sa gloire, non pas la loi exigeant ce que l'homme devrait être, mais la gloire révélant ce que Dieu est. Ainsi, l'Éternel passa devant lui et cria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et sur la quatrième génération. » Exode 34, versets 6 et 7. Ce n'est évidemment pas la loi pure, ni non plus la grâce pure, la grâce souveraine de Dieu révélée en Christ. C'est plutôt la bonté de Dieu en gouvernement sous laquelle il est dit que Dieu ne tient point le coupable pour innocent, alors que, sous la grâce, Dieu peut justifier l'impie. L'effet de cette manifestation partielle de gloire a été que, lorsque Moïse descendit de la montagne la seconde fois, son visage rayonnait. Exode 34, versets 29 à 35. Mais même ainsi, le peuple ne pouvait pas supporter le reflet de cette manifestation partielle de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse. Ils ne pouvaient fixer de leurs yeux le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Aucun homme ne peut supporter une révélation de Dieu, même partielle, si elle est accompagnée de la loi. Dans de telles circonstances, soit on cherche à se cacher de Dieu, comme fit Adam au jardin d'Éden, soit on cherche à cacher Dieu comme Israël le fit en suppliant Moïse de mettre un voile sur son visage. Pensée de Gien Darby. Il est ainsi prouvé que nous ne pouvons pas supporter le moindre témoignage à la gloire de Dieu en sainteté, en grâce et en bonté, s'il est accompagné d'une demande de répondre à cette gloire par nos propres efforts. Non, lorsque la gloire de Dieu est accompagnée d'une demande que je lui corresponde, plus cette gloire est révélée, plus il nous est impossible de la supporter. Après avoir montré le caractère et l'effet de la loi, l'apôtre présente en contraste le ministère de la grâce. Il parle de ce ministère comme étant le ministère de l'Esprit, le ministère de la justice, le ministère qui demeure, et finalement comme le ministère qui, non seulement abonde en gloire, mais qui subsiste en gloire. Versets 8 à 11. La loi était l'écriture de Dieu gravée sur les tables de pierre. Exode 32, verset 16. L'évangile est un ministère de l'Esprit de Dieu par lequel Christ est écrit sur le cœur. En outre, l'existence, le commencement et la poursuite de ce ministère de l'Esprit dépendent de la gloire de Christ. La gloire dans laquelle Christ est assis est le témoignage à la satisfaction infinie de Dieu en Christ et en son œuvre. C'est ainsi que Dieu est pleinement satisfait qu'il y ait maintenant un homme dans la gloire, un homme entièrement approprié à la pleine révélation de Dieu. La venue de l'Esprit fait suite à sa gloire. Du fait que Christ est dans la gloire, le Saint-Esprit a pu venir travailler dans le cœur des pécheurs, leur révélant tout ce que Dieu est, selon que cela est donné à connaître dans la face de Christ. En outre, nous apprenons que l'évangile de la gloire de Christ est le ministère de la justice. La loi était un ministère de condamnation, car elle exigeait la justice de la part du pécheur et elle le condamnait à cause de son injustice. Au lieu d'exiger la justice de la part du pécheur, l'Évangile proclame la justice de Dieu au pécheur. Il nous dit que « Christ est mort comme propitiation pour nos péchés », que Dieu a montré sa satisfaction complète de ce que Christ a fait en le faisant justement asseoir dans la gloire, que maintenant, par Christ, Dieu est juste en proclamant la rémission des péchés à un monde de pécheurs. De plus, il peut être juste en déclarant que le pécheur qui croit en Jésus est justifié de toute chose. Romains 3, versets 24 et 26. Ainsi, l'évangile de la gloire de Christ non seulement nous parle de l'amour et de la grâce de Dieu, mais il déclare la justice de Dieu. Contrairement à la loi, le ministère de la grâce est celui qui demeure. La loi est venue intermédiairement pour dévoiler ce qu'est l'homme. Ce n'était que pour préparer la voie à la venue de Christ. Christ étant venu, nous avons celui qui ne peut jamais passer, dont la gloire ne peut pas pâlir et dont l'œuvre ne peut pas perdre son efficacité. Par conséquent, toutes les bénédictions de l'évangile de la gloire durent autant que Christ lui-même, car elles dépendent de la gloire de Christ. La loi qui a pris fin a été introduite avec un aperçu de gloire. Le ministère qui demeure non seulement abonde en gloire, mais subsiste en gloire. Il dépend pour son existence de la pleine révélation de la gloire de Dieu en Christ. Maintenant que la gloire de Dieu a été pleinement satisfaite par Christ et par son œuvre, la gloire de Dieu peut être pleinement révélée dans l'évangile de la gloire. Versets 12 à 16. Citation de l'Écriture. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur sa face, pour que les fils d'Israël n'arrêtassent pas leurs yeux sur la consommation de ce qui devait prendre fin. Mais leurs entendements ont été endurcis, car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure sans être levé, lequel prend fin en Christ. Mais jusqu'à aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeure sur leur cœur. Mais quand il se tournera vers le Seigneur, le voile sera ôté. » Fin de citation. En voyant alors la bénédiction du ministère de l'Évangile qui nous donne une place stable dans la gloire, nous pouvons user d'une grande franchise de parole, ou liberté de parole. Nous n'avons pas comme Moïse à mettre un voile sur la gloire. La gloire de Dieu en sainteté et en amour peut être totalement déclarée, étant donné qu'elle est manifestée dans la face de Christ, lui qui est mort, pour ôter tout ce qui est contraire à cette gloire. La gloire sur le visage de Moïse était voilée, avec comme résultat qu'Israël ne pouvait voir ni la mesure de gloire manifestée dans la loi, ni Christ, la fin, vers laquelle la loi dirigeait les regards. Les pensées d'Israël ont été obscurcies, et elles le restent jusqu'à aujourd'hui. Quand les Israélites lisent la loi, ils ne peuvent pas voir celui vers lequel la loi dirige les regards à cause de l'incrédulité de leur cœur. Le voile qui était sur le visage de Moïse est maintenant sur les cœurs d'Israël. Lorsqu'Israël se tournera finalement vers le Seigneur, le voile sera ôté. De même pour nous, ce n'est que dans la mesure où nous nous tournons vers le Seigneur que l'aveuglement et les ténèbres s'en vont de notre cœur. Versets 17 et 18. Citation de l'Écriture. Or, le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Fin de citation. La parenthèse des versets 7 à 16 étant close, l'apôtre reprend le sujet du verset 6. Il parlait là de l'esprit de la nouvelle alliance, qui est pour tous en contraste avec la lettre qui limite cette alliance à Israël. Poursuivant ce sujet, l'apôtre dit maintenant « Le Seigneur est l'Esprit ». Si l'on écrit le mot « Esprit » avec une majuscule, le mot se réfère alors à l'Esprit Saint, et cela ne semble guère intelligible. Le sens semble être que le Seigneur Jésus est l'Esprit, ou l'essence de l'Ancienne Alliance. Toutes ces formes, ces sacrifices et ces cérémonies préfiguraient Christ de différentes manières. La loi avait une ombre des choses à venir, mais Christ en est la substance. Hébreux 10, verset 1, Colossiens 2, verset 17. L'incrédulité manque de voir Christ dans toutes les Écritures, mais la foi saisit le Seigneur dans chaque partie de la parole, et jamais plus clairement que dans le tabernacle, ses sacrifices et ses services. Ayant parlé du Seigneur comme étant l'Esprit, donnant ainsi la vraie portée intérieure de ce qui était communiqué, l'apôtre continue en parlant de l'Esprit du Seigneur. Ici, sans aucun doute, la majuscule est utilisée à juste titre, car chacun est d'accord qu'il s'agit du Saint-Esprit. L'apôtre déclare que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ce qui frelatait la parole de Dieu, chapitre 2, verset 17, amenait les saints dans la servitude en les occupant d'eux-mêmes. L'Esprit amène dans la liberté en tournant leur âme vers Christ dans la gloire. Ceux-ci n'ont alors pas peur de la gloire du Seigneur. Ils peuvent considérer sans voile la gloire vue dans la face de Christ, car celui sur la face duquel la gloire rayonne a répondu à ce qu'exige la gloire. En outre, contempler le Seigneur dans la gloire a une puissance qui transforme, et celle-ci est disponible pour tous les croyants, du plus jeune au plus âgé. Nous tous, non pas simplement nous les apôtres, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Ce changement ne s'effectue pas par nos propres efforts, ni en nous fatiguant en s'efforçant d'être comme le Seigneur, ni en cherchant à imiter quelques saints dévoués. C'est en contemplant la gloire du Seigneur. Il n'y a aucun voile sur son visage, et à mesure que nous le contemplons, non seulement tout voile d'obscurité disparaît de nos cœurs, mais moralement, nous lui devenons de plus en plus semblables, transformés de gloire en gloire. Ainsi, non seulement le Saint-Esprit écrit Christ sur le cœur, pour nous faire devenir des lettres de Christ, mais en engageant nos cœurs avec Christ dans la gloire, il nous transforme à son image et maintient ainsi l'Écriture clairement lisible. Non seulement nous sommes ainsi des lettres de Christ, mais nous devenons des lettres connues et lues de tous les hommes. De plus, le Saint-Esprit ne nous occupe pas de notre propre rayonnement pour Christ. Moïse a eu un aperçu de la gloire de Dieu, et immédiatement son visage a rayonné. Mais nous lisons, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Exode 34, verset 29. Il n'était pas occupé de son visage qui rayonnait, mais de la gloire de Dieu. La gloire est en Christ, et c'est seulement dans la mesure où nous sommes occupés de lui que nous reflèterons un peu de sa gloire.